Les nuits de France Culture.
L'arrivée sur le devant de la scène de la physique quantique a provoqué un séisme, non seulement dans le monde de la science, mais aussi dans celui de la philosophie. La pensée scientifique, inspirée de Descartes et du positivisme qui fleurit au XIXe et au début du XXe siècle, sont mises à mal par l'émergence de ce domaine nouveau, où on parle de ce qui n'est pas observable, où on reconnaît que l'observation objective est impossible, et qu'il y a des choses que l'on doit étudier, certes, mais dont on ne connaîtra jamais vraiment la nature. C'est un véritable changement de paradigme épistémologique qui s'opère, tout en ouvrant la voie à des pensées nouvelles, souvent plus radicales et audacieuses que dans les schémas restrictifs qui s'appliquaient presque dogmatiquement auparavant. On voit naître des théories comme la théorie des cordes, qui remettent en question la relativité générale, jusqu'à la largement acceptée par la communauté scientifique. Si les hypothèses qui sont formulées à partir de la physique quantique sont souvent contre-intuitives pour la culture occidentale, nombreux sont les chercheuses et les chercheurs à rapidement faire un rapprochement entre physique quantique et philosophie orientale. Il semblerait en effet que les textes scientifiques, philosophiques et surtout religieux de ce que nous appelons très vaguement l'Orient soient extrêmement compatibles avec la physique quantique, tant et si bien que de nombreux ouvrages et théories de fusion voient le jour, dessinant les contours de pensée mais aussi de spiritualité nouvelle. Dans ce numéro de Recherche et pensée contemporaine, c'est justement de cette porosité entre la physique quantique et la pensée orientale dont il est question. C'est Fritjof Capra, alors professeur de physique des particules élémentaires à Berkeley, et le physicien et écrivain Amaury de Riencourt, qui viennent en débattre au micro d'Olivier Germain-Thomas et de Michel Cazenave, dans une émission qui rebat les cartes de la pensée moderne. Une immersion dans un monde où mystique, science et spiritualité ne font qu'un, donc, diffusé pour la première fois le 14 février 1981.
Recherche et pensée contemporaine. Science, philosophie, psychologie des profondeurs, sciences religieuses. Physique et philosophie orientale. Par Olivier Germain-Thomas et Michel Cazenave. Avec Fritjof Capra, professeur de physique des particules élémentaires à l'Université de Berkeley, et Amaury de Riencourt, philosophe et écrivain.
Il est probablement vrai qu'en général, dans l'histoire de la pensée humaine, les développements les plus féconds naissent à l'intersection de deux courants d'idées. Les courants peuvent avoir leur origine dans des domaines totalement différents de la culture, à des époques et en des lieux culturels divers, dès lors qu'ils se rencontrent effectivement et entretiennent une relation suffisante pour qu'une réelle interaction puisse s'exercer, on peut espérer des développements nouveaux et intéressants. Werner Heisenberg, physique et philosophie.
On sait la révolution qui a été introduite dans le domaine de la philosophie des sciences et plus particulièrement de la philosophie de la physique par l'apparition de la mécanique quantique dans le premier tiers du XXe siècle. On peut dire en effet que depuis le XVIIe et le XVIIIe siècle, depuis les travaux de Descartes et de Huygens, la physique s'était définie dans un champ que l'on pourrait qualifier par, d'une part, son matérialisme affirmé et d'autre part une attitude réductrice dans l'étude de la nature. Or, la mécanique quantique a remis tout ce champ épistémologique en question et d'une certaine manière a ébranlé les certitudes que l'on pouvait croire les plus établies. Cette nouvelle philosophie que la mécanique quantique appelait obligé presque les savants à redéfinir, a amené un certain nombre de ses pères fondateurs, comme Heisenberg, comme Niels Bohr, comme Erwin Schrödinger, à se tourner vers des horizons culturels tout à fait différents du nôtre et d'une certaine manière en opposition même avec notre propre tradition philosophique. Puisque l'on sait qu'Heisenberg s'est intéressé de très près aux philosophies hindouistes et bouddhistes, on sait que Niels Bohr s'est intéressé plus particulièrement au taoïsme et avait pris lui-même comme arme, comme emblème, si l'on peut dire, le yin et le yang des Chinois, et que Schrödinger, à la fin de sa vie, à son tour s'est tourné vers cette pensée orientale qui lui paraissait rendre conceptuellement mieux compte de ce qu'il découvrait dans son laboratoire. Et l'on sait d'autre part que des physiciens aussi éminents que Yukawa, par exemple, prix Nobel de physique, lui-même considère qu'en fin de compte les découvertes qu'il avait pu faire avaient été aidées par sa propre formation dans les disciplines zen. Aujourd'hui, c'est cette relation éventuelle, hypothétique dirons-nous pour être prudents, entre l'arsenal théorique que nous amène la mécanique quantique et ces philosophies orientales que nous voudrions aborder. Nous le ferons avec Fritjof Capra, l'auteur de ce Tao de la physique qui a ramené le problème de ces rapports au premier plan, et avec Emory de Riencourt qui, dans une démarche complémentaire mais différente, puisqu'au lieu de partir de la physique vers la philosophie, il part de la philosophie vers la physique, nous amène pratiquement à des conclusions identiques. Et le premier problème qu'on peut se poser est bien sûr de se demander pourquoi faire appel ainsi à ces philosophies orientales, alors que généralement jusqu'ici, dans notre propre tradition, nous avions tendance à considérer que c'était des philosophies entre guillemets inférieures à notre propre appareil conceptuel et que donc, d'une manière ou d'une autre, on pourrait peut-être les considérer, en fin de compte, comme des attitudes de régression du point de vue de l'histoire de la pensée. Amaury de Riencourt, vous qui vous êtes plus particulièrement penché sur ce problème, comment réagissez-vous devant cette accusation ou devant cette suspicion que l'on pourrait porter par rapport à cette démarche ?
Effectivement, je crois qu'on a eu tendance pendant des siècles en Occident à considérer que les pensées orientales, et par Orient j'entends strictement le monde hindou-bouddhiste, une forme inférieure de culture. Alors qu'en fait, il faut voir la genèse de tout ceci, qui se situe à peu près entre 500 et 1000 ans avant Jésus-Christ. C'est le point de départ a été les formes de pensée divergentes des Grecs pré-socratiques et des Indiens. Et je crois que si on cherche une clé, un point de départ, ça a été que pour la première fois, les Grecs pré-socratiques ont identifié la réalité avec la pensée rationnelle et logique à l'état de veille. La pensée orientale est partie dans l'autre direction, c'est-à-dire qu'elle a inscrit une plus grande part de réalité au monde des rêves qu'au monde à l'état de veille. Partant de là, bien entendu, ça signifie qu'en Occident, on a tiré un rideau de fer entre le conscient et l'inconscient, et c'est seulement depuis quelques générations qu'avec la psychanalyse, on est arrivé à l'entamer. En Orient, vous n'avez jamais eu ce problème, puisqu'on a vécu, au contraire, un contact intime avec l'inconscient. Partant de là, il y a une série de phénomènes culturels divergents. Le premier, c'est que l'Occident a très vite été amené à... Alors, au-delà des Grecs, le mariage entre la pensée hébraïque, zoroastrienne et grecque, a inventé le temps linéaire, c'est-à-dire l'histoire comme nous la connaissons. Cette histoire a été immédiatement spiritualisée dans le sens que une histoire qui a un début et une fin est la dimension dans laquelle la volonté divine se révèle. L'histoire pour l'Orient n'a aucun sens ni spirituel ni métaphysique. Même ça, c'est la première considération. La deuxième, c'est que l'Occident, sous l'égide des Grecs, a été amené à identifier la réalité avec l'objet. C'est-à-dire qu'à l'état de veille, qu'il y a opposition très nette entre le sujet, le soi, et le monde extérieur. Et ce monde extérieur finit même par comprendre le monde des idées, c'est-à-dire l'objectification peut même aller jusqu'au monde des idées de Platon. En Orient, la réalité a été identifiée au contraire avec le sujet. L'objet est une illusion, et la seule chose qui vous sépare de la connaissance, c'est cette espèce d'illusion. Donc, l'univers tout entier, y compris la divinité, se trouve à l'intérieur de soi et pas projeté au dehors.
Loin d'être un objet parmi tant d'autres, le complexe corps-activité mentale représente en Orient l'irruption du monde de la nature dans le domaine du sujet souverain, débordant d'une volonté instinctive d'existence. Le corps, par exemple, n'est pas la prison d'une âme objectivée, mais l'enveloppe physico-chimique étroitement tissée autour du moi, à qui elle est organiquement liée à tout point de vue. C'est au premier chef le non-moi des Upanishads. L'Orient soutient que ces liens doivent être tranchés pour que se réalise le moi, et cette coupure est effectuée grâce à une série de techniques psychosomatiques les plus complexes et les plus élaborées que l'homme ait jamais conçues. Et de même que les contradictions philosophiques, telles que celles opposant la liberté au déterminisme, par exemple, ne peuvent être résolues de manière logique dans le contexte occidental, mais peuvent en fait être dépassées de manière expérimentale, de même, cette quête de la connaissance ultime et par conséquent de la réalisation du moi de l'oriental peut aboutir en surpassant l'esprit rationnel, séparant ainsi le sujet du monde phénoménal du temps et de l'espace.
Fridtjof Capra, vous êtes physicien, vous avez eu une expérience personnelle que vous relatez dans un de vos ouvrages, Le Tao de la physique, qui a été une forme d'illumination et de prise de conscience d'une part en quelque sorte immatérielle à l'intérieur même de la matière. Alors la première question qui vient à l'esprit est de savoir comment concilier ces deux mondes, celui de l'expérience personnelle intérieure et celui de l'interrogation de la matière. Et je suppose que vous êtes l'homme de ce pont, mais ce pont existe-t-il de façon uniquement subjective ou est-ce la science, c'est-à-dire l'interrogation de la matière, qui vous a amené un certain degré de l'interrogation à considérer qu'il devait y avoir autre chose que la présence matérielle dans la matière?
Il y a 5 ans, j'ai eu une belle expérience qui m'a conduit à écrire ce livre. J'étais assis au bord de l'océan, un soir d'été, regardant les vagues déferler et sentant le rythme de ma respiration, lorsque je pris soudain conscience de tout mon environnement comme étant engagé dans une gigantesque danse cosmique. Étant physicien, je savais que le sable, les roches, l'eau et l'air autour de moi étaient composés de molécules vibrantes et d'atomes consistant en particules qui en créent et en détruisent d'autres par interaction. Je savais aussi que l'atmosphère de la Terre était continuellement bombardée par des pluies de rayons cosmiques, particules de haute énergie subissant de multiples collisions lorsqu'elles pénètrent dans l'air. Tout cela m'était familier de par ma recherche en physique des hautes énergies. Mais jusque-là, je l'avais seulement expérimenté à travers des graphes, des diagrammes et des théories mathématiques. Tandis que je me tenais sur la plage, mes expériences théoriques passées devinrent vivantes. Je vis des cascades d'énergie descendre de l'espace, au sein desquelles les particules étaient créées et détruites selon des pulsations rythmiques. Je vis les atomes des éléments et ceux de mon corps participer à cette danse cosmique de l'énergie. J'en sentais les rythmes et j'en entendais les sons. Et à ce moment précis, je sus que c'était la danse de Shiva, le seigneur de la danse, adoré par les hindous.
Pour moi, ce pont s'est établi d'une façon assez dramatique et ce n'est pas venu de ma recherche en physique.
Fridtjof Capra.
J'avais ma formation de physicien, théoricien de physique des autres énergies. Quand j'étais intéressé aux philosophies orientales, aux religions orientales, c'était dans les années de 60, 66 à peu près. J'étais d'ailleurs à Paris, je travaillais à la faculté de sciences à Orsay. J'ai commencé à lire des livres sur le bouddhisme, l'hindouisme, le zen, etc. Et en lisant ces ouvrages, je remarquais presque tout de suite que les idées qui étaient exprimées ne m'étaient pas tout à fait étrangères, qu'il y avait un ton presque familier. De toute façon, il y avait quelque chose que je connaissais déjà un peu. Je le connaissais de ma recherche en physique. Une des choses les plus frappantes dans le mysticisme, c'est toujours le rôle du paradoxe. Alors, le paradoxe a joué un rôle très essentiel en physique dans ce siècle, surtout dans les années 1920. Et moi, j'avais appris tout ça en apprenant la théorie quantique et tout ça, la physique atomique. Alors, j'étais habitué à confronter le paradoxe. Moi, je n'ai pas dû le faire dans ma recherche, parce que ça s'est passé il y a 50 ans. Mais je l'avais appris et ce n'était pas tout à fait étranger à mon esprit. Alors comme ça, quand j'ai commencé à m'intéresser dans la philosophie orientale, j'ai tout de suite trouvé quelque chose qui s'adressait à moi d'une façon assez dramatique, personnelle, si vous voulez. Alors mon intérêt s'est agrandi au fur et à mesure et il a abouti en fait en une expérience qui était non verbale et extrêmement forte que j'ai décrit dans la préface de mon livre et qui m'a mené à étudier ces parallèles entre la physique et la mystique orientale en profondeur.
Je vis des cascades d'énergie descendre de l'espace, au sein desquelles les particules étaient créées et détruites selon des pulsations rythmiques. Je vis les atomes des éléments et ceux de mon corps participer à cette danse cosmique de l'énergie. J'en sentais les rythmes et j'en entendais les sons, et à ce moment précis, je sus que c'était la danse de Shiva.
Déjà, une première chose qui me frappe, c'est en fait cet usage de la rationalité qui a été fait par l'Occident. Dans la mesure où, lorsque nous parlons de rationalité, en fait, nous nous référons à un type très particulier de rationalité, qui est la rationalité, ou qui est la logique, qui a été mise en forme par Aristote. C'est-à-dire, au fond, fondée sur les principes d'identité d'exclusion, étant entendu qu'un troisième terme n'est pas donné. Si vous voulez, c'est A et A, A n'est pas non A, oui. Et on ne peut rien avoir en dehors de ces hypothèses. Alors que, apparemment, tout de même, un certain nombre d'autres logiques sont possibles. Je veux dire par là qu'actuellement, on voit très bien à travers, par exemple, les travaux de Bachelard, et plus particulièrement de sa fille, comment d'autres logiques peuvent se construire. Et Lorient, alors lui, a été très longtemps habitué à des logiques complètement différentes. C'est puisque ça. Si nous prenons, par exemple, la logique du canon bouddhique, nous avons une logique à quatre termes. À savoir, d'abord les deux premières propositions d'Aristote, tout à fait normales, un objet A est bien un objet A, et un objet A n'est pas un objet B. Puis ensuite, nous avons ces deux propositions qui sont beaucoup plus difficiles à accepter, disons pour un esprit occidental traditionnel, à savoir qu'un objet A est à la fois un objet A, et il n'est pas, et il est aussi un objet B, et puis un objet A n'est ni un objet A, ni un objet B. Ce qui viole, d'une part, le principe d'identité, d'autre part, le principe d'exclusion. Et donc, à travers cette logique, qui d'ailleurs en grande partie est la logique que l'on voit en application dans les rêves, qui est la logique en grande partie de l'inconscient, on voit très bien comment, en fait, peut-être une autre rationalité peut se bâtir. Donc, d'où la question que je me pose, est-ce que la rationalité qui est la nôtre, qui effectivement est rationnelle, il n'est pas question de mettre cela en doute, mais est-ce que ce n'est pas simplement une rationalité restreinte ou disons un type particulier de rationalité ?
Elle est tout à fait restreinte. Cette rationalité aristotélienne, d'ailleurs, a été combattue, puis surpassée par la dialectique hegélienne, et elle se trouve maintenant à être simplement un cas particulier d'une logique beaucoup plus vaste. Et c'est là où alors la révolution de la physique contemporaine nous révèle qu'en fait, elle ne peut plus opérer sur des bases aristotéliennes.
Amaury Doriancourt.
C'est-à-dire qu'on n'a plus maintenant une séparation rigide, on est ou on n'est pas, etc. On a des degrés de réalité. Et le phénomène, au fond, que j'ai voulu étudier dans ce travail, c'est comment se fait-il que, alors là, nous sommes obligés d'aller au-delà même de l'inconscient, dans le phénomène mystique qui est un phénomène psychophysiologique. Comment se fait-il que l'univers tel que le voit la physique contemporaine ressemble beaucoup plus à la vision intuitive des grands mystiques orientaux qu'à la vision déformée des mystiques occidentaux? Et c'est là où on se rend compte que le phénomène mystique qui se manifeste, mettons, depuis 3-4 000 ans, depuis que les grandes cultures ont démarré, a été toujours réprimé en Occident par la pensée rationnelle, qui est la pensée à l'état de veille. Alors que l'Orient a identifié la réalité avec la vision mystique. Donc à cause des dogmes, à cause d'idées préconçues, d'idéologies, on a toujours eu tendance à réprimer la vision mystique, parce que cette vision détruit l'objectivité du monde, c'est-à-dire le dieu occidental est un dieu projeté à l'extérieur, le dieu oriental est un dieu interne. Donc, en Occident, vous avez le monothéisme, en Orient, le monisme. Le résultat, c'est que l'Occident n'a jamais voulu accepter le mysticisme comme une approche vers une certaine réalité, sauf dans la mesure où on forçait les mystiques à s'exprimer d'une façon, je dirais, orthodoxe, quelle que soit la religion. Et ça, toute l'histoire du mysticisme occidental le démontre, les procès qu'on a faits, l'exécution d'Al-Halaj en islam, etc. Ce phénomène, vous ne l'avez jamais eu en Orient. Et j'ai essayé de démontrer, justement, qu'il y a au fond deux grandes formes de mysticisme. Le mysticisme en tant qu'art, qui est le phénomène occidental, et le mysticisme en tant que science, qui est le phénomène oriental. Et c'est ça qui, au fond, intrigue depuis plusieurs générations les Occidentaux. Vu que les Orientaux n'ont pas de dogme, pas un, pas de théologie, pour eux, le seul problème est un problème, presque je dirais, d'ingénieur. Comment développer ce potentiel qui est en nous tous pour arriver finalement à l'extase mystique et à la réalisation de soi? Et alors toute la tendance scientifique qui en Occident s'est portée sur le monde objectif extérieur, s'est portée en Orient sur le monde subjectif intérieur. Et alors là c'est très frappant quand on fait le contraste entre les grands textes mystiques orientaux et occidentaux, ils sont aux antipodes l'un de l'autre. Et pourtant on a certainement affaire à un même phénomène qui existe, je dirais, dans la personnalité humaine, mais qui ne se dégage pas et ne s'exprime pas de la même façon d'un côté et de l'autre. Alors le phénomène frappant, justement, c'est que cette attitude scientifique de l'Orient vis-à-vis de ce phénomène leur a permis de voir la réalité et l'irréalité du monde objectif d'une façon, je dirais, quasi scientifique.
Les différentes étapes du yoga sont destinées à nous conduire de manière scientifique à l'état surconscient du shamadhi. Vivekananda, cité par William James, The Varieties of Religious Experience.
Les méthodes du yoga entretiennent avec le travail psychologique habituel de l'homme
la même relation que le maniement scientifique de la force naturelle de l'électricité ou de la vapeur avec l'opération normale de la vapeur ou de l'électricité. Sri Aurobindo, The Synthesis of Yoga.
Dans la nuit de Brahman, la nature est inerte et ne peut danser tant que Shiva ne le désire. Il se relève de son extase et, dansant, envoie à travers la matière inerte des ondes sonores d'éveil. Et voici que la matière danse aussi, faisant autour de lui un cercle glorieux. Dansant, il soutient les myriades de phénomènes. Quand les temps sont révolus, dansant encore, il détruit toute forme et nom par le feu et apporte un nouveau repos. Cela est de la poésie, mais n'en est pas moins de la science. Kumaraswamy, The Dance of Shiva.
Dans son livre « Le monde des particules élémentaires », Kenneth Ford a conçu un exemple complexe d'un tel système comportant la création et la destruction de 11 particules virtuelles. Voici son commentaire. Le diagramme représente une chaîne de réactions paraissant tout à fait incroyable, mais parfaitement réelle. Chaque proton effectue de temps en temps exactement cette danse de création et de destruction. Kenneth Ford, The World of Elementary Particles.
Pour une conception de la philosophie occidentale, le fait d'être à la fois créateur et destructeur est pour nous plus qu'un paradoxe même, ça nous semble une contradiction. Est-ce que ça l'est pour un physicien?
Ce n'est pas tellement une contradiction pour un physicien parce que on a aussi appris en physique que la création, la destruction de la matière se produisent continuellement autour de nous.
Fritjof Capra.
Au niveau subatomique, il n'y a pas d'objet constant qu'on ne peut pas détruire, qui sont éternels, qui subsistent toujours. Il n'y a que activité, il n'y a que processus. Et ce processus implique une création et une destruction continuelle de matière. Il y a stabilité. Et ça, c'est une pensée assez difficile, je trouve. Il y a stabilité, mais cette stabilité est une stabilité dynamique. C'est-à-dire, ce qui se conserve, ce n'est pas les objets, parce qu'au fond, il n'y a pas d'objet. Ce qui conserve, c'est une certaine structure. En anglais, on a un mot « pattern » qui est très expressif et que les scientifiques français ont aussi adopté. Ils parlent de « pattern », c'est-à-dire c'est une certaine structure, un certain modèle qui reste, qui n'est pas détruit, mais les détails, c'est-à-dire la substance, si vous voulez, ou les particules, tout ça, ça change tout le temps. Alors, il y a stabilité dans le mouvement, stabilité dans le processus. Donc, ça doit être forcément un processus de création et destruction. Et d'ailleurs, vous avez ça en biologie aussi, parce qu'une cellule ou n'importe quelle structure organique est toujours en mouvement. Et comme vous savez, on échange toutes nos cellules dans un certain temps, je crois dans 7 ans, on échange tout ce qu'on a dans notre corps matériel. Et donc aussi, les structures biologiques sont des structures qui sont au fond des processus de création et destruction. Et par quelques moyens, les mystiques, pas seulement dans l'Orient, mais aussi dans l'Occident, ont eu cette intuition, c'est-à-dire par la voie méditative, par l'impression directe, non intellectuelle, ils ont eu cette impression.
Vous disiez tout à l'heure, il est évident que les Orientaux n'ont jamais rompu les ponts avec leur inconscient, ils l'ont toujours vécu, et puis en même temps vous disiez, mais au fond ça va plus loin que l'inconscient. Alors je me demande s'il ne faut pas aussi s'entendre sur ce terme-là. dans la mesure où, au fond, il y a deux manières de concevoir l'inconscient humain. C'est-à-dire soit d'en faire une qualité proprement personnelle, c'est-à-dire un inconscient qui est beaucoup plus le produit de notre histoire, particulièrement de notre histoire infantile et des différents refoulements, des différents dynamismes qui ont pu s'y produire. Et puis il y a une autre manière qui est de concevoir que l'inconscient est une sorte de réalité psychique commune à l'ensemble de l'humanité. Et ce qui nous introduit évidemment à une dimension complètement différente. Et ce qui nous introduit alors à une notion, je pense, assez intéressante, qui était celle qui a été mise en avant justement par un certain nombre d'explorateurs de cet inconscient, c'est-à-dire cette notion d'une réalité psychique objective.
Je crois que le point de départ, ce serait l'inconscient collectif de Carl Jung, qui se situe au-delà de l'inconscient personnel.
Amaury d'Orientcourt.
Mais sur lequel l'inconscient personnel se base, puisque dans ses travaux et ses expériences, il a vu très souvent les archétypes que l'individu ne connaît pas, mais dont il a hérité. Alors, partant de là, il est possible justement de concevoir l'être humain comme une espèce sous forme d'entonnoir, c'est-à-dire tout en haut se trouve la pensée consciente, rationnelle, à l'état de veille, au-dessous l'inconscient personnalisé, résultat des expériences de sa vie propre, et en dessous, ou au-delà, selon la façon de voir la chose, se situerait alors cet inconscient collectif qui est une immensité et qui est totalement, dépersonnalisé.
Oui, mais c'est cela, si vous voulez, qui me semble d'une certaine manière intéressant, qui peut être un des ponts en même temps qui peuvent être faits, qui pourront nous servir plus tard. C'est que cet inconscient, disons, général, en réalité, on ne peut pas dire qu'il soit au-dessous. Il est effectivement sur un autre plan, dans la mesure où il informe effectivement notre vie, mais en même temps, il y a bien cette notion à laquelle je faisais allusion de réalité psychique objective. Or, qu'est-ce que cela veut dire, sinon que, justement, nous brisons avec la tradition occidentale dans laquelle la subjectivité n'est que personnelle et l'objectivité est quelque chose de massif et de fort en face de nous, mais qu'il peut bien y avoir une réalité psychique qui ne soit pas une pure illusion, mais qui existe en elle-même.
Et qui soit plus réel, au fond, pour ceux qui en font l'expérience, alors par la voie mystique, plus réel que le monde que nous considérons comme réel, c'est-à-dire ce monde objectif.
Oui, exactement, puisque cette réalité psychique objective, d'ailleurs, nous renvoie à une autre notion que ces analystes ont mise en avant, qui est finalement celle de savoir absolu de l'univers. Or, le savoir absolu de l'univers, c'est-à-dire finalement une sorte de science totale qui est transmise par le cosmos, là je crois que nous revenons extrêmement près justement de ce monisme oriental et de la, je dirais presque de la conscience absolue, ou de cette notion de conscience absolue qui est transportée par ce monisme oriental. Et alors, si vous voulez, ce qui me semble frappant, c'est qu'aussi bien dans cette voie, qui est une autre voie de rapprochement avec l'Orient, nous retrouvons finalement en grande partie cette double division, c'est-à-dire que pour l'Occident, la véritable division a toujours été celle entre le sujet et l'objet, alors que pour l'Orient, finalement, la division était surtout entre, disons, le personnel et l'universel.
Oui, j'ai exprimé ça d'une façon un peu différente, c'est-à-dire qu'en Orient, une fois l'identification de la réalité avec le sujet faite, ce qui sépare le sujet de son identification et de sa compréhension, c'est simplement le voile de l'ignorance métaphysique. Il n'y a pas d'objet en propre. Il n'y a que des symboles. Pour l'oriental, à ce moment-là, le problème est de dissiper cette ignorance, qu'il considère d'ailleurs comme ignorance strictement intellectuelle. C'est pour ça qu'il est obligé de dépasser la pensée pour en arriver à la réalisation de soi. La question est de savoir qu'est-ce que c'est que cette réalisation, dans quelle mesure est-elle en partie physiologique, en partie spirituelle. Et ça, c'est un sujet qu'ils ont abordé, traité en long et en large. Mais pour eux, la seule question, c'est simplement de trouver les techniques appropriées, adaptées à la personnalité, pour permettre à cette personnalité de se transcender.
Le disciple demanda au maître « Comment la flèche peut-elle être décochée si je ne le fais pas ?»« Il le fera, » répondit-il. « Je vous ai déjà entendu dire cela à plusieurs reprises. Permettez-moi alors de poser la question sous une autre forme. Comment pourrais-je tirer la flèche si, m'oubliant moi-même, je ne suis plus là ?» Il le pourra, au moment de plus grande tension. Mais quel est donc ou qu'est-ce donc que ce « il » ? Le jour où tu auras compris cela, tu n'auras plus besoin de moi. Érigel, l'archevaleresque du tir à l'arc.
Vous avez bien montré comment l'idée de destruction et de création est se retrouver de manière évidente dans le cosmos, mais il y a une autre idée essentielle qui est celle du samsara, c'est-à-dire de la renaissance des âmes, qui montre qu'il n'y a pas stabilité de l'être, mais que l'être se recrée et se décrée au fur et à mesure des vies successives. Alors est-ce également une vision que vous retrouvez, la vision du samsara, dans la physique ?
Samsara, d'après ce que je me souviens, ça veut dire littéralement d'être continuellement en mouvement. Et je me repose très fortement là-dessus que l'intuition fondamentale du monde dans l'Orient, c'est une intuition dynamique. Il s'agit toujours de mouvement, de transformation, de changement. Le temps est toujours impliqué. Il n'y a pas de structure rigide, statique, alors que c'est exactement ce qu'on a maintenant dans la science, dans la théorie quantique, dans la théorie de relativité, où la matière, ou plutôt la masse, est équivalente à l'énergie. Ce n'est qu'une forme d'énergie. Alors, ça veut dire qu'un objet qui a une certaine masse est une structure d'énergie, c'est-à-dire c'est un processus qui implique une certaine énergie. Et ça veut dire que les formes que nous observons, les formes matérielles, sont essentiellement des formes dynamiques, des formes qui reflètent des processus. Alors c'est ça que veulent dire aussi les mystiques orientaux avec leur notion de samsara. Enfin, c'est mon interprétation. Après, bien sûr, eux, ils partent pas de la matière. Il faut se rendre compte de ça. L'approche est très différente, l'approche de la physique et de la mystique, parce que les mystiques partent de la conscience. Et c'est la conscience humaine et l'expérience de différents états de conscience, modes de conscience, qui les mènent à des notions qui sont très semblables à nos notions en physique, que nous, en tant que physiciens et scientifiques, débarquons de la matière. Alors, c'est des approches opposées qui maintenant se rencontrent.
C'est ça, mais toujours dans cette recherche du point de rencontre, on a vu certaines personnes émettre l'idée qu'il devait y avoir une conscience dans la matière, et même certains ont dit qu'il pouvait y avoir une conscience dans la pierre. Et vous, bien que très proche de la pensée orientale, et nous reviendrons tout à l'heure à l'influence précise du taoïsme sur vous-même, bien que très proche de cette pensée, vous semblez refuser cette idée qu'il pouvait y avoir une conscience dans la pierre.
Quand on dit la pierre, une pierre a de la conscience, on se réfère à des notions classiques au point de vue physique ou cartésiennes. C'est-à-dire, quand on parle d'une pierre dans le langage de tous les jours, on veut dire un objet qui est bien isolé, bien séparé du reste. Alors dans ce sens-là, dans le sens cartésien, la pierre n'a pas de conscience. Une plante, on peut en discuter, un animal encore plus, un être humain, on est tous d'accord, nous avons de la conscience. Mais une pierre, non. Parce que les structures matérielles n'ont pas cette complexité qui nous permet de dire qu'il y a une conscience intrinsèque dans la pierre. Mais lorsqu'on regarde la pierre comme une partie d'un tout qui est fondamentalement inséparable, alors là, on doit dire que le tout universel, cosmique, est conscient. Parce que nous avons la conscience, et si nous faisons partie du tout universel, il faut conclure nécessairement que le tout aussi est conscient, parce qu'un tout qui consiste des parties conscientes doit être conscient aussi. Donc, dans ce sens-là, la pierre, dans le sens où elle appartient, où elle participe dans le processus cosmique, dans ce sens-là, elle est consciente. Là, je suis bien d'accord.
Et il y a interaction entre les différents éléments du tout. C'est-à-dire, certains physiciens nous ont montré qu'il pouvait y avoir une force psychique qui pouvait influencer la matière.
Oui, il y a interaction entre ces éléments. Et en fait, l'interaction est essentielle à la forme même des éléments. Je vous donne un exemple. En physique atomique, on étudie les atomes, les parties des atomes. Il y a un noyau dans un atome, il y a des électrons qui tournent autour. Alors, quand vous observez un électron, il se trouve que l'électron peut arriver, peut se manifester sous forme de particules ou sous forme d'ondes. Et la forme de manifestation va dépendre de la manière dont vous faites vos expériences. C'est-à-dire, vous pouvez utiliser une certaine espèce d'appareil, vous verrez une particule. Vous utilisez un autre appareil, vous verrez une onde. Alors, qu'est-ce que c'est que l'électron ? Est-ce que c'est une particule ou une onde ? Ben, c'est ni l'un ni l'autre, mais il montre des propriétés ondes ou des propriétés particules selon l'interaction avec l'observateur. Autrement dit, métaphoriquement dit, je peux poser à l'électron une question onde, et je reçois une réponse onde. Je peux poser une question particule, je vais recevoir une réponse particule. Alors c'est seulement dans l'interaction du phénomène avec l'observateur conscient que se produisent ces propriétés. Autrement dit, il n'y a pas de propriété absolue dans la matière en soi. Toutes ces propriétés ne sont qu'une réflexion de son interaction avec l'observateur. Alors là aussi, il y a une grande similarité avec la vision mystique, parce que la participation du cosmos dans la conscience de l'observateur, ou bien autrement dit, à l'envers, la participation de l'observateur dans la danse cosmique, c'est vraiment essentiel pour le savoir mystique.
Les lois fondamentales de la nature ne contrôlent pas directement les phénomènes. Nous devons imaginer qu'ils opèrent dans un substrat dont nous ne pouvons former aucune image mentale. Les événements de ce substrat sont accompagnés d'autres événements dans le monde des phénomènes que nous représentons dans le temps et l'espace, mais le substrat et le monde phénoménal ne s'unissent pas pour former un monde en soi que nous pourrions observer objectivement sans venir le troubler. L'univers fermé se compose de trois parties: le substrat, le monde phénoménal et l'observateur. James Jeans, physique et philosophie.
Un certain nombre de techniques, dont soit les techniques tantriques, soit les techniques du yoga, etc., qui nous sont, dont on commence quand même à savoir tout un certain nombre de choses et qui sont finalement des techniques que j'appellerais psychophysiques. C'est-à-dire jouant à la fois effectivement sur le développement de l'âme et sur un certain usage du corps. Étant donné que là non plus, il n'y a pas justement cette séparation de l'esprit et du corps que nous connaissons en Occident, mais que tout cela fait partie de la même réalité. Mais cette réalisation doit nous amener à la réalisation de ce qu'au fond les hindous appellent l'atman, c'est-à-dire ce que, en langage psychologique, nous en Occident nous appellerions notre soi profond, qui est ce qui fonde notre personnalité, ce qui est en même temps le plus impersonnel en nous. Et puis par derrière l'atman, nous avons cette grande notion du brahman, qui serait, si l'on peut dire, le soi de l'univers entier. Alors au fond, le problème, c'est que nous sommes d'accord pour dire que la démarche mystique amène à des expériences vécues, qui sont tout aussi réelles, sinon même plus réelles, que notre expérience quotidienne, dans la mesure où elle donne accès à un autre, je dirais pas un niveau d'être, mais un autre état d'être. La question qui se pose alors, c'est de savoir, à partir de ce point de vue nouveau, à partir de cette expérience, quelle est la description de la réalité qui est donnée par ces mystiques, et quelle est en quelque sorte l'ontologie qui est dressée, quelle est la description de l'organisation de l'univers qui nous est ainsi transmise.
L'idée essentielle, c'est que l'état mystique est un potentiel plus ou moins réalisable chez nous tous. Selon ces visions, il se pourrait que l'état mystique soit dû à la même force que celle qui a produit l'évolution. Et que cet état, cette vision du monde, c'est-à-dire l'irréalité de ce monde objectif matériel, qui n'est que la surface ou l'écume d'un océan de conscience, cette possibilité, cette vision est due à la même cause que celle qui a fait progresser l'humanité depuis des millénaires, et que le mystique soit aujourd'hui l'avant-garde d'un état de conscience qui sera généralisé dans l'humanité dans des générations à venir. De même qu'il y a, mettons, 100 000 ans, dans les cavernes, il y avait peut-être quelques êtres humains qui avaient à peu près notre niveau de conscience, celui que nous avons tous aujourd'hui, qui est apparu d'une façon sporadique, mais que la très grande majorité était encore à l'état plus ou moins barbare. Dans ce cas, le mysticisme, comme il est apparu depuis 3-4 000 ans, serait simplement une préfiguration d'un état de conscience généralisé dans l'avenir.
Oui, mais alors si vous voulez, cet état mystique tel qu'il est décrit comporte quand même avec lui-même un certain nombre de données ou un certain nombre de visions sur le monde. Dans la mesure en particulier où, tout au moins si j'ai bien compris les textes, et si j'ai bien compris en même temps votre thèse, cela suppose qu'il y a un niveau d'être, disons, dans lequel la matière et l'esprit, ou l'âme, appelons-la comme nous voulons, ne sont pas réellement séparés. À savoir que cette séparation n'est en fin de compte qu'une sorte d'illusion, ou de nécessité peut-être, imposée par nos sens, mais ne correspond pas à une réalité profonde. Et que la véritable réalité, c'est une sorte de niveau sous-jacent, si vous voulez, ou de niveau impliqué, de niveau involué, dans lequel, en réalité, on ne pourrait pas faire de différence entre l'esprit et la matière.
C'est ça. Et c'est là, évidemment, où, à mon avis, par exemple, si vous permettez qu'on en revienne un peu à la science, la vraie controverse métaphysique du siècle, c'est la controverse entre Einstein, d'un côté, et ce qu'on appelle l'interprétation de Copenhague de la théorie des quantas. C'est-à-dire Einstein maintenant l'existence objective d'un monde qui est l'objet du sujet, l'objet de l'étude des savants, et de l'autre l'interprétation de Copenhague qui dit qu'il n'y a absolument aucun besoin d'assumer l'existence d'un monde objectif séparé de nous. Puisque la seule réalité, c'est les interactions entre nous et ce monde extérieur.
Si l'on vous suit, il n'y a plus de véritable objectivité de l'expérience, puisque le sujet est tout le temps en train d'apporter une part de sa subjectivité qui va modifier la réponse que lui donne la matière.
Oui, c'est absolument vrai. Et ça a donné des difficultés énormes aux physiciens atomiques dans les 30 premières années de notre siècle, dans les années 1920. C'était des difficultés énormes parce que justement, ils ont dû abandonner toutes ces notions classiques de la description objective de la nature, de l'espace absolu, le temps absolu, la matière, la substance matérielle et tout ça. Toutes ces notions sont assez liées les unes aux autres et ces scientifiques ont dû les abandonner presque toutes et ils avaient une vraie crise existentielle. C'était pas seulement une crise intellectuelle, c'est fascinant à lire. Heisenberg a écrit beaucoup là-dessus, que c'était une vraie crise existentielle. Mais qui était couronnée du succès à la fin. À la fin, elle a mené à des vues très profondes, à des connaissances très profondes concernant la nature de la matière et la nature de la conscience.
Pour essayer d'éclairer un peu les choses, on peut dire que d'une certaine manière, Einstein représente la tradition, disons, objectiviste.
C'est ça.
De l'Occident, c'est-à-dire le monde existe indépendamment et que nous l'observions ou que nous ne l'observions pas, de toute façon il continue à exister avec les mêmes lois.
C'est ça.
Bon, et d'autre part, on peut dire que la révolution, au fond même, la révolution introduite par la physique quantique et plus particulièrement par l'interprétation de Copenhague, qui de toute façon je crois est maintenant à peu près généralement admise par l'ensemble des physiciens, est que tout ce que nous pouvons décrire n'est en réalité que l'interrelation ou l'interréaction entre nous en tant que sujet humain et, entre guillemets, si l'on peut dire, le monde objectif que nous sommes en train d'étudier.
C'est d'ailleurs ce que disait le philosophe anglais Whitehead, l'événement est la quintessence de la réalité. À part l'événement, il n'y a rien. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, au 18e, alors ça en Angleterre, une controverse entre l'évêque Berkeley, qui était l'idéaliste pur, et Samuel Johnson, qui était le matérialiste typique. Et quand on a expliqué l'idéalisme de Berkeley à Johnson, il a donné un coup de pied dans un rocher en disant « Ça prouve bien que mon pied est réel et que le rocher est réel. » Alors qu'en fait, le bishop Berkeley, s'il avait vécu 200 ans plus tard, lui aurait dit « Non, votre pied et ce rocher n'existent pas, c'est des illusions. La seule réalité, c'est l'événement qui est le contact entre votre pied et le rocher. »
C'est-à-dire que là, je crois qu'il faut peut-être être précis pour qu'on comprenne bien exactement quel est l'enjeu de la dispute. C'est que même si l'on revient à la pensée orientale, si vous voulez, dans le concept de Maya, c'est-à-dire dans ce concept de l'illusion du monde dans lequel nous vivons, d'une certaine manière, la pensée hindoue ne conteste pas que les objets qui sont autour de nous aient un certain degré, aient une réalité, mais une réalité...
Un degré de réalité,
c'est ça, mais à son niveau propre. C'est-à-dire, c'est un simple niveau.
D'accord.
Mais c'est une sorte, disons, de déploiement ou d'efflorescence d'une réalité plus cachée. Et non, parce que je crois qu'il est important de dire cela dans la mesure où la Maya souvent est interprétée en Occident comme finalement la dénégation de toute existence à l'objet.
Non.
Alors que je crois que les hindous ne disent pas ça.
Non, c'est des questions de degré. Mais c'est... puisque nous sommes toujours à la recherche de cette réalité ultime, il est certain que. On est obligé de revenir maintenant à cette conception scientifique, seul l'événement existe.
Dans les expériences portant sur des événements atomiques, nous avons affaire à des choses et des faits, à des phénomènes qui sont tout aussi réels que ceux qui se produisent dans la vie quotidienne. Mais les atomes ou les particules élémentaires ne sont pas quant à eux aussi réels. Ils forment plus un monde de potentialités ou de possibilités que de choses ou de faits. Werner Heisenberg, Physique et philosophie.
Un neutron peut se désintégrer en un proton et un électron. Mais le terme même de désintégrer est incorrect, en ce qu'il suggère que le neutron consiste en une agglomération d'un proton et d'un électron, ce qui n'est pas le cas. Cette terminologie est un héritage de la vision mécaniste du 19e siècle, et la physique contemporaine préfère utiliser le mot « création » pour mettre en lumière le fait que le proton et l'électron ne préexistent pas à l'intérieur du neutron. Quelque chose de nouveau apparaît qui n'existait pas comme tel auparavant. Nelson, tiré de Atomos to Atoms.
Mmh.
la science actuelle est en train de remettre en cause toutes les certitudes scientifiques du 19e siècle et du début du 20e siècle. Et on a l'impression que certains des philosophes se réjouissent que la science redécouvre certaines des intuitions qui étaient les leurs, soit dans le domaine de la philosophie, soit, de manière encore plus précise, dans le domaine de la mystique. Mais il semble qu'il manque à toute notre époque une métaphysique ou une philosophie globale qui puisse être en accord avec les besoins intérieurs de l'homme et avec les réalités scientifiques actuelles, comme il y a eu, par exemple, à une certaine époque, la pensée philosophique grecque qui était en relation avec un certain état de la conscience scientifique, ou comme il y a eu, au moment du Moyen-Âge, une certaine pensée philosophique, celle de saint Thomas, par exemple, qui était en relation étroite avec les connaissances scientifiques et physiques de l'époque. Alors, vous-même, vous avez choisi, mais il s'agit presque d'une fuite, car vous êtes parti dans une des traditions les plus anciennes, une tradition chinoise ancienne, mais est-elle universalisable pour l'époque d'aujourd'hui ? Ne sommes-nous pas dans cette espèce de situation assez catastrophique qu'avait connue par exemple la fin de l'Empire romain, où il y a de nouvelles certitudes, mais il n'y a aucune capacité de la part des esprits philosophiques d'en faire un système global ?
Je pense personnellement, moi, que la mystique et toute tradition qui est vraiment une tradition mystique produit un cadre philosophique qui est idéal comme fond pour la science moderne. Je suis très convaincu de ça. Maintenant, la question c'est quelle tradition, quelles expressions choisir. Et je crois qu'on ne va pas trouver une philosophie globale qui s'accorde avec tout ce qu'on dit dans la science, parce que la science maintenant est tellement épandue, est tellement complexe, qu'il y aura toujours des petits désaccords. Mais sur le fond, la philosophie mystique, soit-elle taoïste ou bouddhiste, ou bien bergsonienne ou whiteheadienne, ou une philosophie occidentale de ce genre, sera toujours une base très appropriée pour la physique moderne. Et je crois aussi que nous allons trouver notre philosophie propre qui s'accorde avec ces expériences qu'on a eues en science. Il ne faut pas oublier que ces expériences étaient très récentes, bien que dans le cours d'une vie personnelle, 50 ans sont un grand bout de temps, mais quand vous parlez du taoïsme ou de la philosophie grecque, là, on parle de... Ça s'est produit il y a 2500 ans, alors que dans ce cadre-là, il faut penser dans des temps beaucoup plus larges. Et je crois qu'on va développer, et on est en train de développer déjà, en Europe et en Amérique, une base philosophique qui s'accorde avec la science.
Alors revenons-en à votre propre expérience, votre intuition qui a été, comme vous l'avez dit vous-même, une intuition d'abord émotionnelle. Vous n'avez pas voulu la transformer dans le domaine pur de l'intellect, puisque vous avez voulu en faire une pratique. Et la voie que vous avez choisie, c'est la voie du taoïsme. Alors pourquoi et comment ?
Je me suis intéressé à pas mal de traditions mystiques orientales et occidentales du Moyen-Orient. J'ai un peu fait le shopping autour de ce qu'il y avait. Je crois comme tout le monde, enfin comme beaucoup de gens dans les années 60. Et pour une raison, je me suis trouvé très attrayé du taoïsme. C'est pour moi une tradition très attractive. Vous savez que toutes ces traditions mystiques sont différentes dans leur approche, dans la façon où ils organisent leur pratique. mais le but, c'est essentiellement le même, et la vision du monde, c'est la même. C'est pour ça que dans mon livre, je peux comparer la physique, le point de vue de la physique moderne, à la mystique orientale. Et je suis bien conscient qu'il y a des différences entre le hindouisme, le bouddhisme, le taoïsme, mais quand même, leur vision du monde est très semblable. C'est ça que je compare à la vision de la physique. Mais au point de vue personnel, bien sûr, on est toujours attiré plus ou moins par une technique ou l'autre, ou par une approche ou l'autre. Et j'ai trouvé toute la mentalité chinoise extrêmement attractive. Je crois peut-être une raison, c'est qu'elle est d'une façon la plus scientifique. Les Chinois ont une mentalité très terre à terre. Ils sont vraiment liés dans la réalité. Et il n'y a pas la grande spéculation de l'au-delà, la fascination avec les étoiles, pour ainsi dire, le regard fixé sur les étoiles, sur l'au-delà, la réincarnation et tout ça. Ils n'emploient pas tellement ces termes. Maintenant, j'ai un maître chinois en Californie et il m'apprend le tai chi. C'est une façon, une espèce de yoga chinois, une espèce de méditation chinoise. Et il n'emploie jamais ce terme-là. Il ne s'appellera jamais un maître spirituel, un gourou, tout ça. Il n'emploie pas ces mots. Je crois pour ça que ça me plaît beaucoup. Et aussi, il y a une autre raison, le taoïsme peut-être plus que les autres traditions mystiques de l'Orient est une tradition extrêmement dynamique. Tout se base sur le mouvement éternel. En fait, un des textes les plus anciens, les plus fondamentaux chinois, c'est le I Ching. Alors le I Ching, le titre même veut dire, je ne sais pas très bien en français, le livre du change, des changements. Quelque chose comme ça. Alors on voit de là déjà l'importance fondamentale du changement dans la pensée chinoise. Et moi, je trouve ça très attractif de baser sa connaissance du monde sur cette notion dynamique de changement. Ça correspond beaucoup à la physique que je fais et je crois que c'est pour ça que j'ai pu faire un lien entre ma vie spirituelle et ma vie scientifique. J'en suis extrêmement heureux. Je trouve dans le taoïsme, dans cette pratique, une harmonie parfaite entre ma vie scientifique et ma vie spirituelle.
Et avez-vous eu le sentiment que la pratique des techniques de méditation taoïste vous ont permis, ne serait-ce que de manière intuitive, de percevoir un peu plus certains des mystères de la matière, c'est-à-dire d'avancer dans votre travail de physicien?
Oui, définitivement. Les deux côtés, la mystique et la science, je crois, peuvent très bien se supporter mutuellement. Et j'ai eu vraiment cette expérience, je peux dire ça très sincèrement, que j'ai eu cette expérience des deux côtés, si vous voulez. Ma science m'a permis de choisir une méthode, une voie spirituelle qui n'est pas meilleur que n'importe quelle autre voie, mais qui correspond le plus à moi, à ma personnalité. Et d'autre part, cette voie spirituelle m'a permis de choisir une certaine direction de ma recherche en physique et m'a permis de concevoir des idées, d'apercevoir intuitivement les conceptions qu'on a en physique.
Il est assez facile de dire en quelques mots pourquoi notre moi percevant ne peut se trouver nulle part à l'intérieur de l'image du monde. C'est parce qu'il est lui-même cette image du monde. Il est identique au tout et ne peut donc en constituer l'une des parties. Erwin Schrödinger, What is Life?
« revenons, si vous voulez, à la physique quantique, puisque la première chose, effectivement, qu'elle nous affirmait, au fond, c'était cette interrelation entre l'observateur et la chose observée. À savoir que, même à la limite, on ne peut plus faire de distinction réelle entre le sujet et l'objet, puisque tout ce que nous décrit la physique quantique, c'est en même temps, c'est beaucoup plus, finalement, la manière dont nous percevons les choses que les choses en soi. Et je dirais même qu'à la limite, dans la, si l'on prend les grands théoriciens, que ce soit Niels Bohr, que ce soit Heisenberg, que ce soit Pauli, etc., plus aucun ne croit et ne trouve même nécessaire le concept de monde objectif.
C'est ça. Et ça, à mon avis, c'est la grande controverse. Et comme vous dites, maintenant, l'interprétation de Copenhague est plus ou moins généralisée. Et il est incontestable que ça donne à la métaphysique orientale, que ça la justifie, dans un certain sens. Le problème étant, alors, ceci étant, où va-t-on ? Est-il possible, par exemple, d'envisager une façon scientifique de permettre au tempérament mystique de se dégager au lieu de le refouler ou de nier son existence. Et c'est là où on en est tout juste maintenant à commencer quelques expériences de ce genre.
Alors, si vous voulez, avant d'en revenir à ces états mystiques et à ces ponts qui peuvent s'établir entre la description de la réalité que nous offre la physique quantique contemporaine et les états tels qu'ils ont été décrits par la tradition mystique, j'aimerais bien que l'on tire un peu plus de conséquences de la théorie physique elle-même, dans la mesure où, effectivement, la théorie physique, nous venons de le voir, a aboli, si l'on peut dire, cette séparation nette entre le sujet et l'objet. Mais je crois, d'un autre côté, qu'il y a eu tout un certain nombre d'autres retombées, si l'on peut dire, de la théorie quantique. Dans la mesure où on s'est rendu compte, par exemple, que les particules, ce qu'on croyait jusqu'ici, les particules ne sont pas du tout ces êtres, je mets être bien sûr entre guillemets, mais ne sont pas ces êtres premiers et éternels que l'on croyait. Ce ne sont pas les billes fondamentales, si l'on peut dire, de la réalité. Mais les particules peuvent très bien surgir du vide, s'annihiler, et donc là on a eu une réalité aussi qui s'est évanouie, si l'on peut dire, entre nos mains. Et puis d'autre part, les derniers travaux de la théorie quantique, je pense particulièrement aux inégalités de Bell, telles qu'elles ont été vérifiées, nous ont démontré qu'en fin de compte s'impose ce que Heisenberg appelait déjà une indivisibilité, et ce que maintenant on appellerait plutôt une non-séparabilité de l'univers. Et là je crois qu'effectivement nous retrouvons un certain nombre de très grandes intuitions de la pensée orientale.
C'est dans les années 30 que beaucoup des grands physiciens ont commencé à philosopher sur toutes les découvertes, y compris les travaux très célèbres de James Jeans, de Eddington, etc. Et c'est déjà à ce moment-là qu'on a pu constater que dans le domaine scientifique, la réalité, au fond, comprenait trois éléments. L'élément objectif de l'expérience, la matière jusqu'au niveau le plus élémentaire, mais qui elle-même sort d'un substrat qui existe, qui est une réalité, mais qui ne sera jamais, qui sera toujours en dehors des investigations scientifiques, et l'observateur, c'est-à-dire un tout qui est en trois parties. Et c'est l'existence justement de ce substrat qui se situe au-delà de la matière, et qui est un phénomène incontestable. Mais grâce à ça, grâce au principe de l'incertitude de Heisenberg, on a aujourd'hui une frontière que la science, comme nous la connaissons, une frontière que la science ne pourra jamais traverser. Et en même temps, on est obligé d'admettre une réalité, c'est-à-dire ce substrat, qui ne sera jamais connaissable scientifiquement. Et c'est là où le problème se pose. Est-il possible de le connaître, ce substrat, par un autre moyen ? C'est-à-dire par l'étude du sujet lui-même, c'est nous.
Amaury de Riencourt, du point de vue qui est le sien, c'est-à-dire de celui du philosophe, pose en fin de compte, par rapport à la science telle qu'elle se présente, qu'il y a une sorte de réalité ultime qui serait inconnaissable par la stricte voie rationnelle. De ce point de vue, bien sûr, il rejoint un certain nombre de découvertes et d'expériences récentes qui ont été faites, particulièrement par Shimoni aux États-Unis et qui faisait suite à ce qu'on a appelé les inégalités de Bell énoncées en 1964. Et à travers ces inégalités de Bell, on s'est rendu compte qu'effectivement la mécanique quantique atteignait à l'une de ses limites et qu'à partir du moment où l'on voulait quantifier ce que l'on a appelé le paradoxe d'Einstein, il y avait forcément une partie de la réalité qui nous échappait. On voit donc comme cette position est scientifiquement fondée elle-même, et ce que l'on peut se poser, c'est alors de savoir comment la réalité peut nous apparaître, même d'une manière qui ne soit pas globale, même d'une manière qui ne soit pas totale, et comment cette réalité se présente d'un point de vue scientifique, et comment, de ce point de vue même, elle peut rejoindre un certain nombre des intuitions qui étaient celles des philosophies orientales.
Un thème, c'est l'unité et l'inséparabilité du cosmos, le fait que tout ce que nous voyons est fondamentalement interconnecté et interdépendant, que le monde n'est pas, comme on le croyait avant, une machine construite des parties différentes, d'objets isolés. Ça, c'était bien sûr la vue cartésienne du XVIIe siècle. Le monde est un tout harmonieux dont les parties peuvent être comprises seulement en les voyant comme... en les comprenant à travers leur connexion avec les autres parties et avec le tout. C'est-à-dire, on aboutit à une notion d'un réseau de relations, relations entre différentes parties d'un tout harmonieux. La deuxième idée, c'est la nature essentiellement dynamique de cette réalité, que ce réseau de relations est un réseau dynamique, que les parties de ce réseau sont des processus et qu'on doit les comprendre à travers leur activité. Ce n'est pas une structure rigide, c'est une structure qui bouge, dont les parties sont des processus, des activités. Et les psychologues, les psychoanalystes employaient ces mots, les philosophes employaient ces mots. Lorsque vous étudiez la matière, vous apercevez qu'il s'agit d'un réseau de relations. Alors, en conscience, vous étudiez la conscience en tant que neurophysiologue ou psychologue ou anthropologue, vous trouvez aussi qu'il y a un réseau de relations. Alors, il y a des corrélations dans les deux côtés, la matière et la conscience. Et maintenant, il paraît, depuis très récemment, qu'il y a des corrélations entre ces deux espèces de corrélations.
Les concepts qui se révèlent maintenant fondamentaux à notre compréhension de la nature, un espace fini, un espace vide, de sorte qu'un point ne diffère d'un autre point que par les seules propriétés de cet espace lui-même, un espace en perpétuelle expansion, une séquence d'événements qui obéit aux lois de la probabilité plutôt qu'à celles de la causalité, ou alternativement une séquence d'événements qui ne peut être pleinement décrite qu'en se rendant hors de l'espace et du temps. Tous ces concepts se manifestent à mon esprit comme des structures de la pensée pure, incapables d'être réalisées sous une forme qu'on qualifierait de matérielle. James Jeans, The Mysterious Universe.
En reconnaissant que le monde physique est entièrement abstrait et dépourvu de toute réalité en dehors de ses liens avec la conscience, nous replaçons la conscience dans sa position fondamentale, au lieu de la représenter sous la forme d'une quantité négligeable que l'on trouve parfois dans la nature inorganique à un stade avancé de l'évolution. Eddington, The Nature of the Physical World.
On peut dire, par rapport à cela, d'une part que la tradition occidentale, en faisant cette séparation brutale du sujet et de l'objet, avait oublié, l'objet étant à la limite, disons, l'univers tout entier, avait oublié que le sujet faisait lui-même partie de cet univers, et l'en avait extrait d'une manière, je dirais presque arbitraire, d'une part, et puis d'autre part, nous en arrivons au fond à la thèse, si je ne me trompe pas, à la thèse qui est exposée par Bernard d'Espagna, à savoir que ce à quoi nous donne accès la physique, c'est ce qu'il appelle une objectivité faible, c'est-à-dire une objectivité qui en réalité est fondée sur cette interrelation constante entre l'observateur et la chose observée, et qui à la limite d'ailleurs fait de l'observateur physicien actuellement plutôt un participant à l'expérience, beaucoup plus que l'observateur impavide, si l'on peut dire, l'observateur de l'ancienne physique, et puis ce qu'il appelle alors un réel voilé, c'est-à-dire le réel qui assure son existence à ce que nous voyons, qui assure son existence à la fois à l'objet étudié et au sujet qu'il étudie, à ce couple maintenant indissociable, mais à un réel dont lui-même dit qu'au fond, la science physique, elle, ne peut plus rien nous en dire. Le problème se pose, effectivement, à partir de ce point de vue-là, c'est comment, au fond, est-ce qu'on peut arriver à ou à le connaître, ou au moins en avoir des visions, ou en avoir des intuitions.
Et alors, à ce moment-là, se pose la question de savoir, est-ce qu'à l'avenir, nous pourrons établir une véritable science du mysticisme, telle que les Orientaux ont essayé de l'établir au cours des millénaires, avec l'aide de tous les moyens que nous avons à notre disposition maintenant.
C'est-à-dire que, de ce point de vue-là, si vous voulez, il me semble qu'il y a un certain nombre de remarques qui s'imposent. Je veux dire, la première, c'est que si tout un certain nombre de grands physiciens se sont tournés vers la pensée orientale, je pense que ce n'est pas simplement l'effet du hasard. Lorsqu'on voit von Weizsäcker, qui a été un des plus grands savants atomistes, se consacrer maintenant, en fait, à l'étude de la philosophie orientale, lorsqu'on a vu des gens comme Niels Bohr ou Heisenberg se tourner eux aussi vers cette philosophie pour trouver en quelque sorte les concepts qui leur permettent d'exprimer philosophiquement ce qu'ils découvraient scientifiquement, ce n'est certainement pas l'effet du hasard, mais c'est parce que là, effectivement, ils trouvaient une adéquation avec leurs propres recherches. D'autre part, il est certain que la science moderne, et particulièrement à travers la neurophysiologie, nous a réhabitués à l'idée de l'existence, et là je parle en occidental, là je reviens dans le langage occidental, nous a habitués à l'existence réelle, disons, du phénomène mystique, puisque nous savons maintenant que les états d'extase sont accompagnés de tout un certain nombre de phénomènes neurophysiologiques très précis, à tel point par exemple que dans les travaux de l'université de Stanford, on a même pu voir à quel type d'activité cérébrale correspondait l'illumination de type zen, c'est-à-dire le satori, ou à quel autre phénomène d'activité cérébrale pouvait correspondre le samadhi, c'est-à-dire l'extase, elle, de type yogique, et venant de la tradition indienne. Donc là, nous avons déjà un certain nombre d'indicateurs, je dirais d'indicateurs scientifiques qui nous disent déjà un certain nombre de choses. Mais d'autre part, est-ce qu'on peut penser tout de même si vous voulez, il y a malgré tout une différence entre l'observation scientifique d'un état d'extase ou d'une vision, et puis le donné intérieur, le vécu de cette vision. Et quant à la description du monde que peut nous donner l'état mystique, qui ne peut pas être séparé là, ne peut être séparé en aucun cas, justement, du vécu intérieur du mystique en contemplation, est-ce qu'on peut réellement parler d'une science au sens traditionnel, ou est-ce qu'on n'est pas obligé de bâtir une nouvelle définition de la science ?
Je crois que sur le plan d'une science traditionnelle, il serait possible d'établir quelque chose qui correspondrait à des données scientifiques dans la mesure où les mêmes phénomènes intérieurs sont liés à des mêmes phénomènes physiologiques extérieurs, si on peut s'exprimer dans ces termes. Et par exemple, les Orientaux, j'ai donné un certain nombre de textes dans mon livre pour montrer que ils vous décrivent pas à pas, selon la méthode employée, les phénomènes internes qui se produisent. Phénomènes lumineux, phénomènes sons, etc. Donc déjà là, ils avaient une approche au moins proto-scientifique à la question. Mais il est certain que nous sommes au tout début maintenant de cette science, et plusieurs projets, d'ailleurs, vont être lancés ces prochains temps, l'un d'entre eux à Duke University. Et il est certain qu'on doit pouvoir détecter des quantités de traces physiologiques avec les instruments dont nous disposons. Les traces physiologiques d'une extase, mettons, qu'on pourrait appeler mystique, et ce serait tout aussi valable que l'observation de particules dans des chambres à bulles. On ne verra jamais la particule, mais on voit les traces qu'elle laisse. Et je crois qu'on peut dire la même chose de l'état mystique. On ne le verra que dans la mesure où on l'éprouve, mais on en verra au moins, si vous voulez, certaines traces physiologiques.
Et ce qui me semble intéressant de ce point de vue-là, et je crois que nous retrouvons en même temps un certain nombre de notions que nous avions mises en avant au début de cet entretien, ce sont par exemple des expériences comme celles qui sont faites justement par exemple dans le département de médecine de Stanford ou qui sont faites en particulier en Australie. Je pense à certaines recherches qui sont faites par exemple sur le traitement du cancer. Or, on s'aperçoit que certains types de méditation, lorsqu'ils sont conduits avec beaucoup de précision et en même temps beaucoup de prudence, évidemment, c'est-à-dire que cela suppose toujours, suivant les enseignements même de la tradition, un maître extrêmement attentif. Apparemment, on est en train de se rendre compte actuellement que certains types donc de méditation peuvent amener à soit à des rémissions, soit même à des guérisons de certains types de cancers dont on sait qu'en réalité c'est une sorte de prolifération biologique anarchique. Et donc là, on a l'impression que suivant ces méthodes psychophysiques à laquelle nous faisions allusion tout à l'heure, nous touchons un point où se fait réellement cette articulation entre le corps et l'esprit, disons de manière plus générale entre l'âme et la matière, et où nous touchons donc à, au moins aux frontières de ce monde sous-jacent dont nous parlions, de ce monde de l'unité, si vous voulez, ce monde de ce que vous appeliez le monisme.
Oui, sûrement. C'est là que se situe effectivement la frontière. On peut mettre ça sur un plan médical. C'est un peu troublant de constater que le grand saint indien Ramakrishna au 19e est tout de même mort de cancer. Alors, et c'était certainement le plus grand de tous. Il y a un moment où il y a certainement une liaison quelque part, mais est-ce qu'il y a juxtaposition totale ? Je ne le crois pas. Dans une certaine mesure, la matière a ses lois, et à ce moment-là, je crois que c'est assez difficile d'imaginer cette espèce de puissance spirituelle se mêlant à des détails. Je ne sais pas, c'est un domaine un petit peu trouble. Je connais des personnes qui ont eu un cancer et qui l'ont guéri de cette façon-là. Tout au moins, ils en sont convaincus, mais difficile à dire.
Si vous voulez, là, c'était simplement un exemple que j'ai essayé de prendre.
Oui.
Mais ce qui me semble, c'est que peu à peu, nous nous acheminons vers un état des connaissances dans lequel on voit se profiler à nouveau cette idée, justement, d'un niveau sous-jacent dans lequel, à la fois, notre conscient, notre corps en tant que matière, et en même temps notre inconscient, mais notre inconscient tel que nous l'avons défini tout à l'heure, c'est-à-dire que cette sorte d'inconscient général de l'humanité prendrait leur source et prendrait une source unique. C'est-à-dire qu'à la fois nous serions à nouveau ramenés vers cette réalité souterraine dont nous ne serions que le déploiement, si l'on peut dire, que la présentation en maya, comme disent les hindous, et que éventuellement peut-être un certain nombre de types de méditation, un certain nombre de techniques, qui ont été d'ailleurs beaucoup plus effectivement explorées par les orientaux que par nous-mêmes, nous permettraient de remonter ou d'accéder à ce point commun qui nous permettrait éventuellement de tenir, si l'on peut dire, l'ensemble des fils de la réalité.
C'est ça. C'est à peu près comme ça qu'on le voit. Mais alors se posent évidemment d'autres questions plus philosophiques après, auxquelles les orientaux, malgré toute leur sagesse, n'ont jamais répondu. C'est, vu l'existence de cette réalité sous-jacente, pourquoi sommes-nous là ? Quel est le but de la vie ? En d'autres termes, est-ce que l'univers a un sens ? Est-ce que l'évolution de l'humanité a un sens ? Et c'est là où on redevient occidental. On pose toujours la question de savoir, ceci étant, quel est le but de tout ça ?
Je te veux, ô toi qui es plein de zèle, faire entendre clairement la science la plus secrète, celle dont la connaissance t'affranchira de tout mal. C'est la science royale, le secret royal, le moyen de sanctification le plus puissant. Elle s'impose par l'évidence. Elle est sainte, facile à pratiquer, impérissable. Les hommes qui n'ont pas foi en cette doctrine, ô héros terribles, impuissants à m'atteindre, retombent dans les sentiers de la transmigration et de la mort. C'est moi, dénué de toute forme sensible, qui ai déployé cet univers. Tous les êtres sont en moi, et moi je ne suis pas en eux. Et à vrai dire, les êtres ne sont pas en moi. Admire ici ma puissance souveraine. Mon être porte les créatures, il n'est pas dans les créatures, et c'est par lui qu'existent les créatures. Comme un grand vent toujours en mouvement dans l'espace s'insinue partout, ainsi faut-il entendre que toutes les créatures sont en moi. Tous les êtres, ô fils de Kunti, à la fin du Kalpa, rentrent dans ma Prakriti. Au commencement du Kalpa, je les rends à l'existence. C'est au moyen de ma Prakriti que je produis et reproduis toute cette foule des êtres mécaniquement par la seule poussée de la Prakriti. Et cette activité, ô Dhananjaya, ne m'enchaîne pas, car j'y demeure comme étranger, étant sans aucune attache à ses œuvres. C'est grâce à moi que la Prakriti produit toutes les créatures vivantes ou inertes, mais je ne suis là que spectateur. Et c'est ainsi, ô fils de Kunti, que le monde évolue.
Mon âme est rassasiée de maux, et ma vie est au bord du Shéol. Déjà compté comme descendu dans la fosse, je suis un homme fini. Tu m'as mis au tréfonds de la fosse, dans les ténèbres, dans les abîmes. Tu as éloigné de moi mes compagnons. Je suis enfermé et ne puis sortir. Mon œil est usé par le malheur. Parle-t-on de ton amour dans la tombe, mon Dieu, de ta fidélité au lieu de perdition? Connaît-on dans la ténèbre tes merveilles et ta justice au pays de l'oubli? Et moi je crie vers toi. Pourquoi repousses-tu mon âme et caches-tu loin de moi ta face?
C'était « Recherche et pensée contemporaine ». Physique et philosophie orientale, par Olivier Germain Thomas et Michel Cazenave, avec Fridtjof Capra, professeur de physique des particules élémentaires à l'université de Berkeley, et Amaury de Riencourt, philosophe et écrivain. Texte lu par Catherine Salvia et Jean-Pierre Gernaise. Chef opérateur du son, Claude Jubier. Réalisation, Jacqueline Archambault. Bibliographie. Le Tao de la physique, Fridtjof Capra, édition Chou. L'œil de Shiva, Amaury de Riencourt, interédition. Physique et philosophie, Werner Heisenberg, édition Albin Michel. Physique et philosophie, James Jeans, édition Marcel Rivière.
C'était Physique et philosophie orientale, un numéro de Recherche et pensée contemporaine de Michel Cazenave et Olivier Germain Thomas, avec Fridtjof Capra et Amaury de Riencourt, et des lectures de Catherine Salvia et Jean-Pierre Gernaise. Première diffusion, le 14 février 1981.